Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Les dieux s'en viennent et les dieux s'en vont. Les mortels clignotent, flamboient et s'effacent. Les mondes ne durent pas. Les étoiles et les galaxies sont éphémères. Êtres fugaces, scintillant comme des feux follets et s'évanouissant dans le froid et la poussière. Mais lorsque la vie apparut, il était là, patient, avec sa famille, les infinis. Lorsque le dernier être vivant aura quitté cet univers, leur tâche sera accomplie. Le songe est son royaume, le monde du sommeil et de l'imagination. Il est le rêve, le seigneur Morphée, et il doit apprendre à s'adapter ou mourir.
The Sandman, une production d'Audible Original, en association avec DC, d'après le roman graphique de DC, écrit par Neil Gaiman, adapté et réalisé par Dirk Maggs. Inspiré des personnages créés par Neil Gaiman, Sam Keith, et Mike Dringenberg. The Sandman. Le sommeil du juste.
Juin 1920. Bureau du conservateur en chef du Royal Museum.
Moi, John Hathaway, déclare que ce qui suit est la description véridique et détaillée de ma conduite au cours des 4 années précédant ce jour, 6 juin 1920. J'ai profité de notre manque de main-d'œuvre au cours de la Grande Guerre pour retarder et faire obstruction à l'inventaire des livres et manuscrits du musée aussi longtemps que possible. La guerre est derrière nous, et demain cette inspection tant repoussée aura enfin lieu. Elle mettra en lumière l'absence de certains ouvrages majeurs de la collection sur l'occulte et la magie, tous uniques, et plus particulièrement la dernière compilation existante de sorts, enchantements et rituels permettant d'invoquer et de capturer la mort, le grimoire Magdalène. La perte de ces œuvres a pour seule cause ma faiblesse, ma crédulité et mon manque de jugement. Je me suis laissé duper par Roderick Burgess, occultiste, sorcier et mage autoproclamé. Le 6 juin 1916, je suis arrivé à Londres et j'ai pris le train en direction du sud et de Crowborough. Là, j'ai loué un chauffeur pour me conduire au manoir de Burgess, à Witch Cross. Mon chagrin, suite à la mort récente de mon fils Edmund, ce long voyage et le poids du lourd volume dans ma mallette m'avaient plongé dans une profonde torpeur.
Réveillez-vous, monsieur.
J'ai dû m'assoupir. Nous sommes arrivés.
On y est. La porte est là.
Merci, mon brave. Pourriez-vous...
Pour attendre, c'est 5 shillings en plus.
Oui, bien sûr.
La porte du manoir de Witch Cross est ornée d'un grand heurtoir. Hathaway l'a à peine soulevé que la porte s'ouvre déjà.
Bon.
Bonjour, monsieur.
Ah, bonjour, je m'appelle Hathaway, professeur John Hathaway. Puis-je... Monsieur Burgess est-il là?
Le maître est dans son cabinet, monsieur. Veuillez me suivre, je vous prie. Par ici, monsieur.
Le cabinet de Burgess est rempli d'arcanes. Momies égyptiennes, squelettes d'animaux, une main momifiée, dont chacun des doigts cireux et noirs fait office de bougie. Hathaway remarque rapidement des créatures empaillées dans des recoins sombres et des gravures runiques sur des panneaux à plis de serviettes.
Au plafond, on peut voir un zodiaque peint en grand détail et une tête de bouc sculptée accrochée au centre de son arche cérémonielle. Face à lui, Burgess se lève de son bureau. C'est un homme bien en chair, au crâne rasé.
Professeur Attaway, quelle joie! Si je m'attendais, allons, asseyez-vous. Compton, du thé pour notre invité.
Bien, monsieur.
Bon, je présume que vous avez réfléchi.
Après notre rencontre au musée, mon fils, Edmund, j'ai reçu un télégramme. Son destroyer coulé il y a 8 jours, au Jutland. Il est mort.
Je vois. Et serait-ce là le grimoire dans votre mallette?
Je vous ai apporté l'ouvrage. Je le devais.
Puis-je?
Bien sûr.
Ah!
Si ce que vous me disiez est vrai, c'est bien vrai, n'est-ce pas? Pour la mort.
C'est très vrai, professeur Attaway. Ne manquait à l'ordre que le grimoire Magdalene.
Et maintenant, vous l'avez?
Oui. La cérémonie se tiendra à la prochaine pleine lune. Et alors, nul ne devra plus jamais mourir.
Toronto, Ontario, Canada. 10 juin 1916. 4 jours plus tard. Ellie Marsten écoute une histoire avant de s'endormir.
Mais enfin, à quoi bon parler de le réveiller, demanda Blanc-Bonnet, puisque tu n'es qu'un des éléments de son rêve. Tu sais très bien que tu n'es pas réel.
Elle sait que l'histoire vise à la distraire.
Je suis réel, dit Alice, et elle fondit en larmes.
Mais cela la terrifie. Kingston, Jamaïque. La même nuit. Dans le bar de son père, Daniel Bustamante dort. Clameurs et chants d'ivrogne ne troublent pas son sommeil. Il rêve d'un château dans le ciel, au-dessus des montagnes bleues. Un château de nuages. Verdun, France. Stéphane Wasserman repart ce soir à la charge sur les tranchées ennemies. À la nuit tombée, il donnera l'assaut. Jamais il n'avait rêvé que ce serait ainsi. On ne lui avait pas dit. Il a menti sur son âge pour s'engager. Il a presque 14 ans. Londres, Angleterre. Unity Kincaid se tourne et se retourne dans son lit. Elle rêve d'un homme grand, ténébreux. Ses yeux brûlent comme des étoiles jumelles dans sa tête. Elle marmonne et geint. Perdue en un monde qu'elle ne comprend pas, Unity rêve. Et à Witch Cross, en Angleterre, tandis qu'il feuillette le grimoire Magdalene, Roderick Burgess rêve éveillé de puissance et de gloire.
Oui, oui.
Et de mort, bien entendu. Surtout de mort.
En mon pouvoir.
Minuit. Il est temps. L'ordre s'est réuni.
Il est temps, oui. Ah ! Nul n'a jamais tenté ce que nous allons réussir ce soir, Alex. Invoquer et capturer la mort. Ce sera un triomphe pour l'ordre.
Oui, père.
Père ?
Mage.
Après ce soir, j'aimerais voir Alistair et ses amis oser rire de moi. Ils ne se moqueront plus, Alex, quand j'aurai la mort à mes ordres. Pauvre Attaway. Même si nous échouons ce soir, mon fils, Attaway nous a cédé le livre. Il sera désormais sous notre coupe. Et nous aurons tout loisir de piller le Royal Museum. Pauvre vieil idiot.
Mage, tout est prêt pour la cérémonie.
Merci, Sykes. Acolytes, à vos places! Commençons!
Un instant, Roderick Burgess a peur. Il songe à l'impudence de son geste. Chercher à capturer la mort. Entraver la faucheuse. Un instant, il hésite. Mais rien qu'un instant.
Je te donne un sou fait avec un caillou. Je te donne un champ que j'ai volé au sol. Je te donne un couteau de dessous les collines et un bâton qui a crevé l'œil d'un mort. Je te donne une griffe arrachée à un rat. Je te donne un nom et ce nom est perdu. Je te donne le sang de mes veines et une plume prise à l'aile d'un ange.
Les paroles de l'incantation résonnent dans la tête de Burgess comme un glas étouffé. Il comprend qu'il ne pourrait pas s'arrêter, même s'il le voulait. Les disciples entourent un cercle tracé à même le sol, un cercle dont le trait noir est décoré de symboles runiques. Une brume noire tourbillonnante commence à s'en élever et prendre forme.
Par tes noms, je t'appelle, ô Seigneur, mon Seigneur. Par le poison, par la douleur, j'invoque. J'ouvre la voie, j'ouvre les portes. Viens. Hashema Deva t'appelle. Maborim t'appelle. Orvendil t'appelle. De l'ombre, il t'appelle. Vers l'ombre, il t'appelle. Sou et champ, couteau et bâton. Griffes et noms, sang et plumes. Ici dans les ténèbres, ici dans les ténèbres.
Ici dans les ténèbres, ici dans les ténèbres, ici dans les ténèbres.
Ici, dans les ténèbres, nous t'invoquons ensemble.
Inconsciente, la silhouette gît à même le sol glacé. Elle est enveloppée d'un vêtement noir, orné de flammes brodées. Sa tête porte un casque étrange, évoquant un insecte aux yeux vides et circulaires. Sa longue trompe retombe sur sa poitrine, comme l'épine dorsale d'une créature ancienne. À une chaîne autour de son cou pend un lourd rubis. Ses mains sont gantées. Une bourse en cuir est tombée juste hors de leur portée.
Mage. C'est elle.
Non, Sykes. Ce n'est pas la mort. Nous avons échoué.
Chut ! Le mage sait.
Damnation ! Je... Quand bien même...
Père, et si vous vous approchiez ?
Silence, mon fils. Nous aurons le rubis, le casque et la bourse. Oui. Je pense tout bien pesé que le bilan de cette soirée va s'avérer très fructueux.
Et que fait-on maintenant?
Nous invitons notre ami à rester. Va chercher la cellule de cristal, Sykes. Que les frères l'y enferment avant qu'il revienne à lui.
Oui, mage.
Aux quatre coins du monde, quelque chose a changé. À Toronto, le jour suivant.
Ellie ? Ellie !
Ah, oh, cette fille !
Pour la troisième fois ce matin, Ellie Marsten s'écroule sur son livre à la table du petit déjeuner.
C'est insensé, Arthur ! Elle s'est encore endormie.
Elle a dû se réveiller trop tôt. Je l'emmène à l'étage.
Son père l'a portée jusqu'à son lit, mais elle ne se réveillera pas. La nuit suivante, à Kingston, Jamaïque, Daniel Bustamante souhaite rejoindre son plus beau rêve, le château de nuages. Mais cette fois, les nuages sont diaphanes, moins réels.
Non ! Non !
Et soudain, il n'y en a plus aucun. Trop affolé pour dormir, il sanglote dans son lit jusqu'à l'aube. Les jours passent. Sur le front occidental, les médecins examinent un soldat qui semble avoir perdu la raison au milieu de l'horreur de la guerre des tranchées.
Stéphane.
Pourquoi son regard est-il aussi fixe ?
Le cas de Stéphane dépasse les médecins. Il croyait avoir rencontré toutes les formes de traumatisme.
Je ne peux pas lui donner plus de morphine. Ça le tuerait.
Ce visage, comme un cri silencieux.
Combien de temps un gamin peut-il rester sans dormir ? Quand les cauchemars s'insinueront-ils en plein jour? Pour Stéphane Wasserman, la charge continue. Unity Kincaid a de plus en plus de mal à rester éveillée. Elle dort presque 20 heures par jour. Avant, elle rêvait, remuait dans son sommeil, marmonnait, soupirait, en proie à des fantasmes à demi oubliés. Désormais, elle dort figée, son souffle est ténu. Perdue pour le monde, Unity dort. Dans la cellule, au sous-sol du manoir de Witchcross, l'otage de Roderick Burgess, qui n'est pas la mort, s'est enfin éveillé. Il est accroupi au fond de sa prison, une demi-sphère de cristal et de plomb soudée à même le sol. Dans les heures ayant suivi l'invocation, on l'a dépouillé des instruments de son pouvoir, son vêtement, le casque, le rubis, la bourse de sable, et de sa dignité. Sa chair nue est du blanc des marbres, et ses cheveux d'un noir d'ébène.
Piégé.
Ses yeux brillent d'argent comme deux étoiles ancrées dans leurs orbites ténébreuses, observant les deux personnages à l'extérieur du dôme qui garde l'entrée de la cave. Il sait que ses fonctionnaires ne sont que de vulgaires geôliers. Son ravisseur n'est pas là.
Observez.
Qui va là ?
C'est Burgess. Et Alex.
Il est réveillé, maître.
Le prisonnier regarde entrer un homme plus âgé, grand et puissamment bâti. Son crâne est lisse, ses traits sont lourds et fatigués, ses yeux sont voilés et vigilants. C'est sûrement le mage responsable de l'invocation. À ses côtés se trouve un garçon, 16 ans tout au plus, tremblant légèrement. Le mage s'approche de la limite du cercle de la prison.
Bienvenue. Vous le voyez, le cercle retient votre part immatérielle. La cellule de cristal emprisonne la part matérielle. Vous ne sortirez que si l'on brise le cercle. Et l'on ne brisera le cercle que sur mon ordre.
Des menaces.
Le moment venu, nous évoquerons les termes de votre libération. Ne le quittez pas des yeux, vous deux. Et quoi que vous fassiez, ne dormez jamais.
Oui, mage.
Patience.
Juin 1920. 2 ans que la Grande Guerre est finie.
Scandale au musée, des trésors pillés. La police soupçonne le conservateur.
Vous êtes une crapule, Roderick Burgess. Et moi, un âne. Un âne de vous croire capable de remplacer Edmund. Un âne de vous avoir remis ce maudit livre. Vous m'avez saigné. Mais vous ne me ferez plus chanter. Pour ma honte, j'en sais trop sur vous. J'ai écrit un billet de suicide. Tout est là. Tout. Si vous avez de la chance, on vous pendra. Fini de ruiner des vies. Je ne supporte plus la mienne. Allez en enfer, Burgess, ou hélas, vous m'y retrouverez, j'en suis certain.
Le corps d'Attaway est découvert dans une mare de sang coagulé, empalé sur un couteau de cérémonie. À ses côtés, une note aux trois quarts brûlés. Elle est illisible.
Imbécile. Comme si j'allais lui permettre de laisser des preuves.
Silence, je vous prie. Dans l'affaire de la mort du professeur John Attaway, la cour ne trouve aucun élément démontrant un lien entre la victime et Roderick Burgess et son ordre des mystères anciens. Face à cette absence de preuves, M. Burgess est acquitté du meurtre du professeur Attaway. Concernant le décès de M. Attaway, la cour conclut un suicide.
Édition spéciale. À la une, scandale dans les milieux de l'occultisme. Non-lieu pour le roi des monts, faute de preuves. Sous-titre, le seigneur mage et son ordre des mystères anciens. Aucune preuve. Le roi des monts, autoproclamé, refuse de commenter. Au cœur du retentissant scandale entourant la curieuse mort... Non, non. le curieux suicide de John Hathaway, conservateur du musée, figure la personne de Roderick Burgess, de son vrai nom Maurice Burgess Brocklesby, né à Preston, Lancashire, en 1872. Au tournant du siècle, Burgess employa sa fortune considérable, héritée de l'industrie, pour fonder son organisation occulte, l'Ordre des Mystères Anciens, établi à Fonerig, un manoir du Sussex. En 1916, M. Burgess proclama dans les milieux occultistes qu'il allait invoquer et emprisonner la mort, prouvant par là qu'il était le plus grand magicien de son temps. On ne sait pas ce qui s'est vraiment passé à Witch Cross en 1916, et il est douteux que quiconque le sache un jour. Une chose est certaine, ce fut un tournant important.
George, vous êtes sur quoi là ?
Je termine avec l'affaire Burgess.
Laissez tomber. Il me faut 500 mots de plus sur la maladie du sommeil. C'est urgent.
Ça nous intéresse vraiment ? Moi, j'oublierai.
Ouais, seulement c'est moi le chef. Le conseil des médecins a dit que ça pourrait être pire que la grippe. Je veux le mot tragédie dans le titre, esprit, corps perdu, corps brisé, voyez le genre ? Allez au boulot, je vous fais confiance.
Ah, bon sang, d'accord. La maîtresse de Monsieur Burgess, Ethel Cripps, a démenti que ses premières tentatives pour faire parler de lui aient été accueillies avec mépris par d'autres magiciens.
L'encéphalite léthargique, ou maladie du sommeil comme on l'appelait, apparut en 1916 et se propagea. Les gens s'endormaient pour ne plus se réveiller. Ils vivaient en somnambule, mangeant quand on les nourrissait, parfois divaguant dans le langage des rêves. Résidus psychiques de la guerre, suggéraient les uns. D'autres, docteurs et savants, plus raisonnables, parlaient de virus. Dans un cimetière allemand, seule une croix de bois brisée rend hommage à la vie de Stefan Wassermann. Incapable de dormir, Stefan mit fin à ses jours un an après sa démobilisation. Il avait 16 ans. Nous sommes en août 1926. Dans la cave, sous le manoir de Roderick Burgess, une impasse perdure.
Dis quelque chose !
Le regard pénétrant du prisonnier observe calmement l'apparence blême et moite de son geôlier.
Arrête de me regarder avec ces foutus yeux !
Nous avons réussi à l'invoquer. Mais il faut maintenant le faire obéir.
J'y arriverai, Sykes. J'y arriverai. Venez.
Oui, Mage.
Vous deux, ne dormez pas.
Oui, Mage.
Alex Burgess est désormais un jeune adulte. Il est assis dans le cabinet de son père, feuilletant l'un des vieux livres poussiéreux volés par Hathaway.
Non, ce ne sont pas des dieux.
La peste soit du bougre ! Je sais qu'il me comprend. 10 ans dans ce bocal et il n'a pas pipé un mot. Il me fixe avec ses horribles yeux ! Il nous hait, bordel !
Oh, un nouveau portrait, Littell.
Père, Mage, j'ai trouvé de possibles éclaircissements sur notre invité. Dans le Paginarum Fulvarum. Regardez cette image.
Ah, oui.
Je crois que c'est lui.
En effet, je suis d'accord.
Vous le saviez déjà ?
Une simple déduction. Sykes, oublie cette photo d'Ethel, viens voir ça. Alex a trouvé.
Qui a-t-il, jeune homme ?
La silhouette sur cette gravure porte un casque similaire à celui que le mage a confisqué à notre invité.
Oui. C'est vrai. C'est bien l'être que nous avons invoqué. Mais lequel ?
C'était forcément l'un des infinis. Mais lequel ? Pas la mort, nous le savions. Le destin, le désir, le rêve était le seul qui concordait. Pourquoi croyez-vous que j'interdise à tous les gardes de dormir ?
Parce que je suppose qu'ils pourraient ainsi les contrôler ?
Précisément, Rusven.
Le rêve, le seigneur Morphée.
J'espérais que tu trouverais la réponse tout seul un jour, c'est fait. Bravo, Alex. Je sais que l'ordre sera entre de bonnes mains. Si jamais je quitte le plan matériel... Hein, Rusven ?
Oui, Mage. Ce sera pour nous un honneur de servir Alex comme nous vous avons servi.
Et pourtant, en novembre 1930, sans que ce soit véritablement surprenant, un schisme plonge l'ordre dans le chaos.
Une guerre magique éclate. Ruthven Sykes, second de l'ordre des mystères anciens, disparaît en compagnie d'Ethel Cripps, la maîtresse du mage qui s'est un jour proclamée son esclave d'amour dévoué. Ils emportent avec eux bien des trésors de l'ordre, et à en croire les rumeurs, plus de 200 000 livres en liquide. Sykes et Cripps auraient traversé l'Atlantique et gagné San Francisco en Californie. Des associés de l'ordre prétendent que Burgess aurait juré de se venger de l'un comme de l'autre.
San Francisco, décembre 1930. Ethel Cripps a rendez-vous chez son médecin. Elle porte à son cou le rubis que Burgess a volé au rêve. Ethel vient d'apprendre qu'elle attend un enfant, mais impossible de savoir s'il est de Roderick ou de Ruthven. Dans leur chambre d'hôtel, Ruthven Sykes a des problèmes tout aussi pressants. Il a besoin d'un allié pour le protéger contre les armes occultes de Burgess. La tâche étant impossible pour un simple mortel, Sykes se tourne vers des forces plus obscures.
Seigneur des mouches, je t'implore de te manifester.
Sire,
tu invoques ma présence. Qu'est-ce que tu recherches ?
J'implore protection, Seigneur.
Les protections sont chères, mortelles. Tu ne proposes que des vulgaires babioles. Est-ce tout ce que tu as ?
Oui.
Sykes saisit un autre des trésors volés à Burgess, qui lui-même les avait pris au Seigneur des Rêves, et le lui tend. Il s'agit du casque que portait Morphée lorsqu'il est tombé dans le piège de Burgess.
Peut-être ce casque, sire.
Ah, oui. Pour ceci, tu auras ce que tu demandes. C'est splendide.
Le casque est accepté. Et en retour, le démon octroie un charme de protection sous la forme d'un œil humain accroché à une chaîne en or. Sykes le reçoit entre ses mains tremblantes.
Cette amulette te protégera de tous les dangers.
Et c'est ainsi que pendant les années qui suivirent, toutes les tentatives de vengeance de Roderick Burgess contre Sykes échouèrent. Son pouvoir s'en trouvant limité, il vieillit et s'affaiblit. Alex devient le plus proche confident de son père et son assistant.
Tenez, père mage.
Comme coule ce sang, que coule aussi le tien, Ruthven Sykes, adepte du 33e qui a pour nom secret Ararita, traître et renégat.
Ressentez-vous un changement ? Est-ce fait ?
Le rituel a échoué. Encore, il a toujours une protection. Misérable vermine !
Et notre prisonnier, ne pourrait-on le faire agir contre Sykes ?
On ne peut pas faire agir le Seigneur des Rêves, Alex. Non, on ne peut que le garder là et espérer.
Nous pourrions tenter à nouveau d'invoquer la mort.
Crétin ! Nous n'aurons Sykes qu'à condition de persévérer. Quelque chose finira par changer.
C'est bien ce qui arrive en 1936. Ethel Cripps abandonne Ruthven Sykes.
Taxi !
C'est pour où, madame ?
À la gare centrale, s'il vous plaît.
On y va, madame.
Ethel porte toujours le rubis du rêve autour du cou et emporte avec elle à son bracelet le don protecteur du démon, l'œil humain. L'amulette qui empêchait Burgess d'atteindre Sykes.
Oui.
Père, que se passe-t-il ?
Il est à moi. Je le sens enfin.
Elle n'aurait pas fait ça. Je vais la retrouver.
Tant que Sykes détenait l'amulette, elle le protégeait. Tant qu'il l'avait encore, elle était sans prix.
Non ! Mon Dieu, non !
6 années de malédiction et d'armes magiques atteignent enfin leur cible. Et la tête de Sykes explose. Ah !
Laissez-moi la paix, je vais mourir dans la rue.
Juillet 1939. Placé dans un service de charité, Ellie Marsten dort encore. Elle s'est éveillée deux fois en 10 ans. Chaque fois, elle réclame sa mère en pleurant. Elle croit encore avoir 8 ans. En Jamaïque, Daniel Bustamante, l'un des derniers à avoir été atteint de la maladie du sommeil fin 1926, dort depuis 13 ans désormais. Il manque à sa femme et à ses enfants. Londres, Angleterre. Unity Kincaid a été violée il y a 7 ans, sans qu'on trouve le coupable. Elle a accouché d'une petite fille. On a étouffé le scandale, le bébé a été adopté. Elle n'en a jamais rien su, elle a dormi tout du long. L'otage de Burgess est toujours enfermé dans le dôme de cristal, sous le manoir. L'univers a compris qu'il n'était plus là. Et lentement, il cherche à le remplacer. Une ruelle de New York, 1939.
Oh, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, Velma ?
Velma Ralston est en retard pour son service. Elle est serveuse au Coconut Grove, un nightclub. Ce n'est pas une heure pour s'aventurer dans ce coin de la ville.
Ah, ma petite dame. J'étais là à me chercher un peu de compagnie et voilà que je tombe sur vous.
L'assaillant de Velma pense qu'ils sont seuls.
Ne m'approchez pas.
Oh, allez, viens me voir.
Il se trompe.
Va falloir être un peu plus gentil que ça avec moi.
Ne me touchez pas.
Viens là.
Arrêtez.
Éloignez-vous d'elle.
Quoi ?
Depuis qu'il sort le soir dans son costume, les cauchemars de Wesley Dodds ont cessé.
Et dégage, tocard !
J'ai dit, éloignez-vous d'elle !
Son costume est tout simple. Un complet vert, un feutre, un masque à gaz de la Grande Guerre et un pistolet à gaz.
Je vous en supplie, monsieur, aidez-moi !
Mais tire-toi ! Et oublie pas ton masque !
Non, j'en ai besoin. Retenez votre souffle, miss.
Et pourquoi elle devrait...
5, 4, 3, 2... Ah, le gaz s'est dissipé. Vous pouvez respirer.
Il est mort ?
Ce n'est qu'une arme de dissuasion. Il va dormir jusqu'à l'arrivée de la police.
Oh, très bien.
Un petit conseil d'amis. Évitez ces ruelles la nuit.
Qui êtes-vous ? Vous n'allez pas me faire de mal, dites.
Madame, je vous rassure. Les innocents n'ont rien à craindre de... Sandman.
D'accord.
Et maintenant, vous devriez partir.
Oui, oui. Merci. Merci pour tout.
Et pour toi, l'ami, un petit souvenir.
Wesley Dodds plonge les méchants dans le sommeil, avec du gaz, répand du sable sur eux et laisse la police les trouver au matin. C'est une idée qui lui est venue en dormant. À 1000 lieues de ses rêves prophétiques occasionnels, celui-ci lui avait fait l'effet d'une visitation. Mais ces temps-ci, Wesley ne rêve pas de l'homme drapé de noir, aux yeux brûlants dans ses orbites sombres, sous ses cheveux d'ébène. Tout a changé depuis qu'il a choisi de s'inventer un personnage qu'il aime appeler Sandman.
Hé, hey, vous ! Ce sac n'est pas à vous.
Qu'est-ce que t'en sais ?
Il jure avec vos chaussures.
Wesley a décidé de continuer tant qu'il aura l'impression de combler un manque, de restaurer une forme d'équilibre. Parce qu'en rentrant chez lui, après une nuit passée à combattre le crime, Wesley Dodds arrive enfin à dormir du sommeil du juste. Huit années passent. Nous sommes en 1947. Roderick Burgess est malade et brisé. Mais il a demandé à Alex, désormais d'âge mûr, de le conduire à la porte de la cave, derrière laquelle le seigneur des rêves est emprisonné, dans sa cellule.
Père, est-ce bien prudent ? À votre âge.
Mon âge ? Te voilà bien insolent. Ouvre donc cette foutue porte.
La silhouette blanche et nue à l'intérieur du dôme de cristal lève la tête pour les regarder entrer. Ses yeux brûlent avec la même force. Ses cheveux sont toujours d'ébène, malgré les années passées dans cette prison.
Toi ? C'est ta faute. Toi, maudit, tu n'es pas la mort, mais tu es immortel. Tu n'as pas vieilli d'un jour depuis ta capture. Tu pouvais m'offrir un pouvoir dépassant mes rêves les plus fous. Je n'aurais pas dû t'en vieillir. Je n'aurais pas dû t'en vieillir.
Père.
Regardez mon geôlier vieillir et mourir.
Respirez, père.
Je ne tire aucune satisfaction de sa mort. Toujours ici, dans la prison qu'il m'a créée. Je suis rêve, l'infini. J'attends. Toujours.
Infirmière ? Oh, j'arrive, Ellie.
1955. À Toronto, on diagnostique officiellement chez Ellie Marsten une encéphalite léthargique. Elle s'éveille désormais 4 ou 5 fois par an. Elle demande qu'on lui lise une histoire.
Ellie, tu es réveillée. Vous pouvez me lire de l'autre côté du miroir. La pauvre.
En Jamaïque, Daniel Bustamante est presque toujours éveillé. Mais il ne dit rien. Les superstitieux le traitent de zombie, de mort qui marche. S'il parlait, il serait d'accord. Quelque chose est mort en lui depuis bien longtemps. Un château fait de nuages.
Tu as fini avec le journal, Agnès ?
Je laisse, Bert. Ça m'écœure, toutes ces histoires avec Suez. Cette horrible affaire.
Ce monde n'est plus pour nous. J'en ai surtout assez de notre gouvernement.
À la mort de ses parents, les avoués de la famille ont placé Unity Kincaid en maison de retraite. On doit lui expliquer sa situation à chaque réveil. Elle ne se souvient jamais. Autour d'elle, les vieux attendent la mort, comme on attend un vieil ami. On tue le temps. Dans le domaine de Fonerig, la mousse s'accumule sur les runes païennes de la pierre tombale de Roderick Burgess. Alex Burgess a plus de 50 ans maintenant. Depuis la mort de son père, il s'est fait un ami particulier. Paul McGuire est dans la vingtaine. Il fut d'abord jardinier à Fonerig. C'est désormais le secrétaire d'Alex et son amant. Paul aide Alex à s'occuper de ce qui reste de l'ordre des mystères anciens, de la propriété et de l'invité mécontent au sous-sol.
Alex, mon cœur. Je vois toujours pas pourquoi tu le gardes en bas.
Qu'en faire d'autre ?
Mais si la police l'apprenait ? C'est de la séquestration.
Ne dis pas de bêtises, Paul ! Je t'ai dit, il est là en bas depuis 40 ans, sans manger ni dormir. Je ne crois même pas qu'il respire dans sa cage en verre. C'est un être au pouvoir insondable, alors... Que faire ? Dire « Pardon, tout est de la faute de père, passez me voir à votre prochaine incarcération sur le plan matériel ?» L'ordre ne se résume pas à une source d'argent et de sexe, Paul. Une partie est réelle. J'ai vu des choses que tu ne croirais jamais et qui me hantent encore. Des cauchemars. Mieux vaut pour nous le laisser en bas. Je serai mort bien longtemps avant qu'il sorte. Ce sera le problème d'un autre.
Si tu le dis, tu as bien plus d'expérience que moi.
N'en rajoute pas.
Un petit tennis ?
Non, désolé. Je suis fatigué.
Très bien. Je vais faire un tour en ville. J'ai plus de cigarettes.
À tout à l'heure.
Monsieur Burgess ?
Oui, je suis seul.
Comment va-t-il aujourd'hui ?
Je serais bien incapable de vous le dire. Il reste là, à regarder fixement derrière le verre avec ses yeux bizarres.
Bonjour. Rien ne vous force à rester ici, vous savez. Le marché que vous proposez, mon père, tient toujours. Le pouvoir, l'immortalité, la promesse de ne pas vous venger. Alors ? Vous comprenez, je le sais. Dites quelque chose !
Non.
Nous sommes en 1968. Des jeunes viennent quêter l'illumination auprès d'Alex.
T'es sûr qu'on y est ?
Faunerig, c'est ce que disait le panneau.
Bonjour, bonjour.
Et voilà !
Vous êtes les deux jeunes gens qui ont téléphoné hier soir ?
C'est vous, Alex Burgess ?
Mais oui, c'est moi. Entrez, je vous en prie.
Bon, alors allons-y.
Alexandre Burgess leur parle de Kundalini Yoga, de sexe tantrique, de voyage astral. Rien d'important. Il leur interdit d'user de psychotropes dans la maison, inquiet que leurs rêves éveillés puissent profiter à son prisonnier, au sous-sol. Il refuse qu'il l'appelle mage quand ils discutent. On dit Alex, toujours Alex. Ellie dort toujours. On l'a transférée dans un hôpital spécialisé dans l'encéphalite. Ils sont nombreux dans son cas. Des gens pour qui les sables du temps ont cessé de couler un demi-siècle plus tôt.
Regarde ce pauvre garçon. Personne ne peut rien pour lui.
Daniel erre dans son monde, sans dormir ni parler. Il se meut lentement, en homme englué dans des sables mouvants.
Et voilà, ma belle. Tenez, tout le monde regarde la télé. Ça va vous plaire, non ? Je peux vous installer dehors, si vous préférez. Oui ? Très bien, alors.
À la maison de retraite, le personnel traite Unity en éveillé. On la déplace de salle en salle avec les autres patients. Endormie, elle suit la télévision. Endormie, elle se repose au soleil. Dans la cave de Faunerig, 24 heures sur 24, il y a deux gardes chargés de surveiller le seigneur des rêves dans sa cellule.
Jeff ?
Quoi ?
Je vais me reprendre une dose.
Bon sang, Kev, tu vas rebondir sur les murs.
Café et amphétamines sont disponibles à volonté. Les gardes ne dorment jamais en service. 1970, les jeunes gens sont repartis. Alex se rend sur la tombe de son père chaque jour pour méditer.
Roderick Burgess n'est point mort, mais dort. Si vous pouviez vous réveiller 5 minutes, père, nous pourrions parler.
Je vais faire un tour au village. Il te faut quelque chose ?
Paul, non. Sois prudent.
Comme toujours, mon cœur.
Alex remet les rênes de l'organisation fondée par son père à Paul McGuire, son amant. Paul ne croit pas à la magie. Lui voit l'ordre des mystères anciens comme un moyen efficace de séparer les crédules de leur argent. Alex passe le plus clair de son temps dans le bureau de son père, désormais le sien, sous un portrait du défunt mage dont le regard le juge depuis le mur. Il a écrit ses souvenirs sur son père, défendu dans la presse la mémoire de son père, prépare un recueil des lettres de son père. Une nuit, il est comme pris de folie. Il lacère le portrait de son père avec un couteau. Alex ne lit plus de livres de magie, sauf un. Le Liber Fulvarum Paginarum. Et de ce grimoire, il ne lit qu'une page.
Le rêve des infinis.
Il lit cette page encore.
Les infinis.
Encore.
Les infinis !
Et encore.
Non !
Nous sommes en 1972.
Pourquoi ne dis-tu rien ? Tu pourrais nous dire tant de choses. Tellement de choses.
1978.
Je ne dors plus en paix depuis 60 ans. Est-ce par ta faute ? Hein ?
1982.
Alors ?
pourrais te torturer, tu sais. Je pourrais. Crois-moi, j'ai déjà tué des gens.
1988.
Je te hais. Tant mieux qu'on t'ait piégé. Tu n'as rien de spécial. Tu le sais. Tu n'as rien du tout. Je suis peut-être en fauteuil roulant. Mais tu n'es qu'un homme nu dans une boîte en verre. Voilà tout. Tu n'es rien du tout.
Bientôt.
Inutile. Vraiment inutile. Ramène-moi à mon bureau, Paul. J'ai du travail à faire.
Oui, Alex.
J'ai bien du travail à faire, hein? Non?
Mais oui, Alex, chérie. Bien sûr, voyons.
Assez de complaisance, Paul. J'ai horreur de ta charité.
Eh ben, le vieux est en rôle aujourd'hui, Fred. Et la journée fait que commencer.
T'as qu'à lire ton Stephen King?
Je l'ai terminé.
Quoi de neuf aux nouvelles?
Oh, la merde habituelle. Je devrais plus acheter ça. C'est plutôt par habitude. Et pour la fille à poil de la page 3?
Ouais, la semaine prochaine, je serai à Majorque. Là, il y aura de quoi faire pour de vrai. Ah, tu sais, question panorama, c'est autre chose que la plage à Eastbourne.
Comme si t'avais la moindre chance, Ernie.
Ouais. J'aurais pas craché sur une ou deux heures de sommeil en plus hier soir.
Je t'interdis de piquer du nez.
Désolé. Je me souviens d'une blonde et d'une glace au chocolat.
Encore une de tes histoires de conquête.
Ok, je vais m'en rappeler en silence. Allez, juste 5 minutes. Surveille-le un peu et puis on échangera.
Oh, salopard. Oh non, mais merde.
Le garde du nom d'Ernest pense à ses vacances. Mais quand ses yeux se ferment, la plage espagnole se transforme en paradis tropical.
Ça commence.
Tout droit sorti d'une brochure de tourisme. Le soleil, la mer, le sable, le ressac et le sable.
Ah, putain, c'était quoi?
C'est lui, dans le bocal. Il s'est écroulé. Il regardait devant lui, comme toujours. Et puis, il t'a piqué du nez et il est tombé.
Putain de merde. Regarde-le. Tu crois qu'il est mort?
Je sais pas trop.
Bordel, qu'est-ce qu'on va faire?
Et ils vont pas penser que c'est de notre faute, hein? On n'a rien fait.
Bouge pas. J'appelle McGuire.
Mort. Il est mort, je parie.
Ça fait longtemps?
Ouais, je sais pas, 10 minutes.
Je crois qu'on devrait aller jeter un coup d'œil.
Il avait encore jamais fait ça.
Mon unique chance.
Faut dire qu'il a jamais rien bouffé. Et puis, il doit plus y avoir beaucoup d'oxygène là-dedans.
J'ai attendu si longtemps que l'un d'entre eux succombe. Qu'on m'offre une occasion.
D'où vient tout ce bazar là-dedans?
Je ne dois pas gâcher ce que j'ai pu obtenir lors de ce bref séjour dans mon royaume.
On dirait du sable.
C'est marrant. Je pensais justement à une plage.
Donnez-moi la clé de la cellule.
On devrait pas demander à M. Burgess?
Donnez-la à moi!
Qu'est-ce qu'on fait?
Restez là pendant que je rentre vérifier s'il est en vie.
Vous êtes sûr que...
Silence! Eh oh!
Attention, il se lève.
Maintenant.
Par l'enfer.
Le seigneur des rêves lève sa main tenant une poignée de sable.
Non.
Il souffle dessus. Avec une visée précise et une force considérable, droit sur ses geôliers, il s'endorme sur place et chute.
Enfin, j'ai réussi. Il était plus que temps. Mais j'ai lié leurs songes, ouvert une voie vers le monde du rêve. Je suis libre.
Et Morphée quitte le monde des mortels pour rentrer dans son royaume.
Vous allez bien?
Qu'est-il arrivé?
Hé! Hey, où il est passé?
Qui?
Non.
Oh mon Dieu!
Non!
Chez moi, c'est si bon d'être enfin de retour.
Ce néant sans lumière est l'espace entre les continents variés et mouvants, les archipels et les récifs des rêves. Des limbes où des miettes de pensées et d'imagination endormies tourbillonnent et volettent.
Je suis parti, monarque. Mais je reviens nu, seul, affamé.
Le rêve est affaibli par son exil si long. Ses déplacements sont limités.
D'abord, manger.
Il mobilise sa force pour s'accrocher à un rêve qui passe.
Oh non, pas encore.
Ceci est le rêve récurrent de Morten Notkin. Dans ce rêve, il se rend à une soirée huppée, mais habillé en clown. Il croyait aller à un bal costumé. Il ne savait pas. Tout le monde rit de lui. Marilyn, Elvis, même John Wayne.
T'es un sacré plaisantin, mon gars.
Je sais seulement vous faire rire, monsieur Wayne.
Ah, c'est pas gagné.
Excusez-moi.
Hey.
70 ans sans rien manger.
C'est qui le type à poil qui pille le buffet? C'est nouveau, ça.
Rêve se gave de petits fours, de vol au vent, de canapés.
J'ai si faim, j'avale sans même sentir le goût.
Rassasié, il ressort du rêve de Morten Notkin.
J'ai mangé, mais je suis faible sans mes outils. Et je n'ai rien pour me vêtir. Une seconde, j'imagine la texture d'un tissu sur ma peau. Je le taille dans du rêve. Ça faisait si longtemps. Voilà.
Morphée, une silhouette dans le monde gris des ensommeillés, se tient vêtu d'un haut noir, d'un pantalon noir, de bottes noires et d'un long manteau noir confortable.
Ça fait 2/3. Je suis rassasié et vêtu. Il me faut maintenant les outils que m'a volé mon ancien geôlier. Il va me les rendre et satisfaire aussi mon autre grand besoin, la vengeance.
Et partout dans le monde, ils s'éveillèrent. À Toronto.
Tu n'es qu'un des éléments de son rêve.
Ellie?
Si ce roi qui est là venait à se réveiller, ajouta Bonnet Blanc, tu disparaîtrais. Put, comme une bougie.
Ma sœur, Ellie Marsden s'est réveillée.
En Jamaïque.
T'as vu un peu, frère? Les dingues.
T'es sûr?
Bah oui, assis comme ça, toute la sainte journée. Il parle pas. Il est fou, l'autre.
Non. C'est terminé.
Et dans le jardin de la maison de retraite, Unity Kincaid revient à elle.
Mon bébé.
Miss Kincaid?
J'ai rêvé que j'avais un bébé.
Et à l'étage, dans le couloir du manoir de Fonerig.
15 verticales. Torpeur, repos. En 7 lettres.
Infirmière, je dois parler à Alex. Il est arrivé quelque chose. C'est important.
Vous devrez attendre, Monsieur McGuire. Il fait un somme.
Bon. Vous me prévenez dès qu'il se réveille.
Alex Burgess dort. Et en dormant, il rêve qu'il est éveillé. Qu'il se lève pour se retrouver dans un long couloir lambrissé, dans une ancienne demeure, peut-être un château. Au mur sont accrochés des miroirs de toutes les formes, et au fil de sa marche, Alex s'observe.
Je rajeunis un peu plus à chaque miroir.
À l'extrémité la plus sombre du couloir, se trouve une table d'appoint couverte de cire, avec une bougie noire allumée dans un chandelier. Au pied de la table, un objet sombre.
Ah, non, juste une ombre qui danse dans la lumière de la bougie. Ah, oh, c'est un chat.
En effet, un imposant chat noir, plein de majesté. Il s'étire et s'éloigne silencieusement, à pas mesurés, dans l'obscurité d'un couloir.
Il veut que je le suive.
Alex prend la bougie et suit le chat. Celui-ci s'engage dans un escalier en colimaçon, dans une tour en pierre.
Ce n'est pas Fonerig.
Alex, qui n'a plus que 20 ans à peine, suit le chat jusqu'au sommet. En haut des marches, se trouve la porte d'une petite pièce. Le chat pousse la porte entrouverte et s'avance délicatement à l'intérieur.
Je suis censé le suivre. C'est sûrement ça.
À l'autre bout de la petite pièce se trouve un haut fauteuil en bois d'ébène, si savamment sculpté qu'on croirait presque un trône. Le chat s'y assoit et fixe Alex avec des yeux comme des étoiles, tombés dans un lac d'un noir profond. Alex bat des paupières, et ce n'est plus un chat qui est assis sur le fauteuil. Il s'agit de Morphée, le seigneur des rêves, qui l'observe maintenant à son tour.
Tu ne dis rien. Que se passe-t-il?
Mais...
Tu donnes ta langue au chat?
Vous? C'est vous?
En effet, c'est moi.
Je... Oh mon Dieu, pardon, ce n'est pas moi, c'est mon père, c'est lui. Je ne savais pas, sinon, jamais, pardon.
Chut. Il suffit. Il est certains méfaits qui sont impardonnables.
Mais...
As-tu la moindre idée de ce que c'était? Peux-tu imaginer, confiné dans une cage en verre durant 70 ans, toute une vie humaine? Le temps ne va pas plus vite pour les miens que pour l'humanité. Et en prison, il se traînait comme un escargot. Je suis maître de ce royaume du rêve et du cauchemar. Toi, ton père m'a happé avec sa pauvre magie, son sortilège à deux sous. Moi, me faire cela à moi, m'interdire mon royaume par votre cercle ridicule. Eh bien, pas d'excuses. D'explication. Pas de raison qui retiendrait mes représailles.
Ce n'était pas vous. Et il y a eu erreur. Nous ne voulions pas vous piéger. Nous voulions capturer la mort.
Vous vouliez la mort? Alors estimez-vous heureux pour votre espèce et votre pauvre planète de ne pas avoir réussi et d'avoir pris le frère cadet de la mort. Jamais vous ne comprendrez votre chance. Où sont mes outils?
Pardon?
Une bourse, un casque, un rubis. Tes gens me les ont volés. Où sont-ils?
Je ne sais pas. C'était avec ce qu'a emporté Sykes, il y a 50 ans. Nous n'avons rien retrouvé.
Je vois. Soit. Ta punition, alors.
Vous allez me tuer.
Non. Non, non. Je t'accorde un don. En récompense de tes années d'hospitalité, je te donne ceci. L'éveil éternel.
Hein ?
Alex Burgess est à nouveau dans son lit, endormi.
Non !
Il est de nouveau très âgé. Son partenaire, Paul, veillait sur son sommeil.
Tu vas bien ?
Oui. Pardon. Un cauchemar, sans doute.
Tu as dormi comme une masse, pendant des heures. Tu as beaucoup bougé.
Paul... J'ai rêvé que notre prisonnier s'était enfui. Il était dans une tour. Il disait...
C'était vrai. Il est parti.
Pendant un instant, dans l'esprit tourmenté d'Alex, le visage de Paul est blanc comme la craie et ses yeux comme des étoiles sous une crinière de cheveux noirs.
Il est parti, Alex. Il...
Il a pris congé ce matin.
Ah ! Écartez-vous de moi !
Oh, Seigneur...
Mademoiselle, je crois qu'Alex perd la raison.
Allons, allons, monsieur Burgess, calmez-vous. Vous avez fait un mauvais rêve, c'est tout. Aucune raison de vous énerver comme ça.
Oh mon Dieu, c'était terrifiant, si réel. Vous avez déjà fait un de ces rêves, vous savez. Où vous vous croyez éveillé, mais vous dormez. Ça fait partie du cauchemar, il vous y êtes toujours !
L'infirmière s'approche de lui. Rien dans son apparence ne le rassure.
Pas vraiment, monsieur. Mais vous savez quoi ?
Sa tête s'arrache de ses épaules et saute sur le lit, entre ses jambes, sans le quitter des yeux.
Je crois que vous allez en faire beaucoup, désormais.
C'était plus ardu que je n'aurais cru. Mais jamais il ne retrouvera sa vie d'antan. À lui, le cauchemar perpétuel. L'éveil éternel.
Depuis combien de temps est-il...
Il dort depuis quelques minutes, si c'est ce que vous voulez dire. Curieux, lui qui a le sommeil si léger, d'habitude.
Pour Paul et l'infirmière, Alex Burgess est plongé dans le plus profond des sommeils. Hors d'atteinte.
Alex, Alex, c'est moi, Paul. Allons, Alex, mon vieux. Debout, ton infirmière et moi.
Mais dans ses rêves, Alex Burgess est éveillé à jamais, dans un monde de cauchemars.
Nous sommes là, Alex. Tout va bien. Debout. Réveille-toi. Allez!
Je lui ai montré la peur dans une poignée de sable.